je voulais aborder aujourd'hui, là, ça se trouvait être les défis les plus importants, excuse-moi, les erreurs les plus importantes que les investisseurs immobiliers font, que je remarque au Saguenay. Mm-hmm. Les erreurs qui sont vraiment récurrentes puis qui ont quand même un impact sur le développement qu'ils font. Fait que c'est cinq erreurs classiques que je voulais faire le tour puis aborder un petit peu le sujet avec toi, voir de ton côté si c'est un petit peu ça que tu remarques aussi, puis regarder les pistes de solutions là, qui peuvent être envisagées avec ces cinq erreurs de marché-là avec les investisseurs. Puis on va faire un petit aparté également là, pour les statistiques qu'on a eues pour novembre concernant les 12 derniers mois. Fait qu'on a de belles statistiques à présenter.
Puis pourquoi tu voulais justement présenter 5 erreurs? Mais c'est parce que tout est dans le transactionnel.
Ouais.
Fait que je veux t'entendre là-dessus.
Ben, c'est parce que c'est vraiment important. Dans le fond, chaque geste qu'on fait dans notre parc immobilier va avoir un impact qui est long terme. Souvent, les gens, ils achètent un petit peu, pas les yeux fermés, mais ils achètent sans avoir des visions long terme, où ils vont dire, ben moi, je veux avoir un parc immobilier, puis ils regardent pas la fin, tu sais. Puis c'est important d'avoir la fin en tête pour savoir comment tu dois structurer ton parc, puis éviter ces erreurs-là qui seront. Puis, c'est une erreur qui est flagrante, puis qui est tout le temps répétée. Ben je pense qu'il faut apprendre de ça, puis la corriger le plus rapidement possible, tu sais, pour être capable d'avoir des transactions qui sont bénéfiques, puis avoir des transactions qui font grossir ton parc de manière exponentielle, finalement.
Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est de comprendre la stratégie sortie. Mais puis la stratégie sortie, oui, c'est la vente des fois, mais des fois, c'est le refinancement. Puis des fois aussi, c'est juste...
Exact.
C'est quoi la prochaine étape après que le projet d'optimisation, mm-hmm. le projet, ça soit dans le commercial, là,
ouais.
aussi d'avoir une vision un petit peu plus long terme.
Ouais,
c'est par rapport à l'actif actuel, une fois qu'il est optimisé ou qu'il est amené à sa pleine valeur.
Puis, tu sais, Samuel parle souvent de sophistication de marché. Puis moi, comment je traduis ça, c'est aussi de mettre un... Comment je peux dire ça? Peut-être un peu plus de sérieux dans les transactions. On sort d'un marché où, tu sais, t'achetais, puis la transaction, 95% des chances mm-hmm. que si tu faisais un peu attention, elle fonctionne, tu sais. Tandis que là, je pense qu'on va aller vers un marché où on se doit d'être un petit peu plus assidu dans nos vérifications diligentes, un peu plus assidu dans la manière dont on analyse nos parcs avant de déposer la promesse d'achat, puis justement avoir un plan qui est en conséquence de qu'est-ce qu'on achète. Fait pour moi, c'est ça que je traduis comme cette sophistication de marché, puis c'est un petit peu ça qu'on va traduire aussi là, dans ces cinq erreurs-là. Ouais.
Mm-hmm. Puis, surtout en ce moment avec les taux, tu sais, là, les CMB en dedans, c'est là, on est le 15 décembre.
Ouais.
C'est les deux, trois dernières semaines. Ça, on est passé à 4,5 à 3,48 ce matin.
Oui,
je crois. Aussi, ça, c'est CMB, là, fait que le taux d'intérêt, c'est ça qui est calculé avec la prime que la banque rajoute là-dessus.
Ouais.
Mais reste que, tu sais, ça fluctue énormément aussi. Fait qu'après, ça essayait pas de timer ça là, non plus. Là.
C'est ça, exact. Puis ça a un impact direct sur nos valeurs, là, vraiment. Là. Tu sais, la capacité de l'immeuble de s'autofinancer, c'est une valeur en soi. Puis ça, d'ailleurs, c'est une des erreurs qu'on va parler tout à l'heure. Tu sais, on voit des vieux investisseurs qui n'ont pas pensé à leur plan de sortie, puis qui n'ont pas pensé... Puis là, tu discutes avec M. le vendeur, ça fait 20 ans qu'il a son immeuble, puis là, il dit « Ah, mais moi, il est payant mon bloc, ça fait 20 ans que je l'ai, puis il ramasse de l'argent. » Oui, mais monsieur, ça fait 10 ans que vous ne faites plus vos augmentations, puis votre bloc qui est supposé rapporter 100 000 par année rapporte 60 000 actuellement. Moi, mon acheteur, il ne peut pas le financer, votre bloc. Là, on arrive avec une option de financement de 40% du prix d'acquisition de ce que vous voulez. Fait que je suis conscient que les 6, les 12 logements se vendent tant de la porte, ou quand on parle de statistiques, le tant de la porte, ou selon l'MRB, à 12 fois l'MRB. Mais si tes revenus ne sont pas en conséquence, ton cash flow va quand même être négatif. Fait au final, ton MRB et ton coût de la porte, on s'en fout. Si l'immeuble ne s'autofinance pas et elle n'a pas des revenus qui sont conséquents, ta valeur, elle n'est pas là. Fait quand on parle de plan de sortie et quand on parle de s'occuper de ses immeubles et de mettre un peu plus de sérieux dans sa gestion immobilière, ben ça en est du sérieux. Ça a des gros impacts, vraiment.
Vraiment. Fait que, si on tombe dans le vif du sujet, l'impact de la gestion immobilière, c'est quoi les coûts qui sont reliés à ça ou le manque à gagner?
Erreur numéro 1, c'est vraiment de sous-estimer les coûts de la gestion immobilière puis sous-estimer les coûts qu'on a par rapport à l'immeuble. Fait, je te donne un exemple, un nouvel investisseur qui dit « Bon, ben, moi, j'achète mon premier bloc, il y a 6 logements. Là, je vais faire le proforma avec lui, avec l'équipe de nos partenaires, avec nos partenaires, nos courtiers hypothécaires. » Fait qu'on regarde le proforma. Nous autres, on va aller normaliser de la gestion immobilière, on va aller normaliser de l'entretien de bâtiment, on va aller normaliser toutes les dépenses qu'un propriétaire se doit d'avoir. Puis on va arriver avec une marge de profit à la fin, puis on va arriver avec des ratios de l'immeuble. Puis souvent, mon investisseur que je vais m'asseoir avec lui, même si l'immeuble, mettons, est négatif ou très, très strict, va me dire « Ouais, mais moi, ma gestion, je la fais moi-même. Puis moi, mon administration, ben, je la fais moi-même. » Puis là, après ça, tu te rends compte que lui, toutes ses transactions où il a appris à calculer, c'est qu'il ne s'en met pas de gestion, puis il ne s'en met pas d'administration, puis il se dit « Je vais le faire moi-même, mais je veux avoir un parc de 50 logements un jour. » Parce que là, tu sais, il faut que tu aies deux poids, deux mesures. Tu sais, si, même si tu le fais toi-même, il faut que tu mettes de côté cet argent-là parce qu'éventuellement, si ton but, c'est d'avoir un gros parc, il va compter dans ta structure financière inévitablement. Fait que c'est sous là que les gens, des fois, vont faire des transactions puis ils vont pas compter, ils vont pas regarder, ils vont prendre revenus, taxes municipales, taxes scolaires, assurance, déneigement, puis ah oui, ça fit, je fais 15 000 par année, let's go, je vais de l'avant. Puis là, tu t'assois avec lui plus tard, il est rendu avec un plus gros portfolio, puis tu te rends compte qu'il n'y a aucun des immeubles qui a de gestion de côté, aucun des immeubles qui a de vacances de côté, aucun des immeubles qui a de l'entretien de côté. Là, ce qui arrive, c'est qu'il n'est plus rentable son immeuble. Là. Finalement, il se rend compte que son acquisition, qu'il pensait qu'elle était si haute que ça, est pas mal plus serrée que ce qu'il pensait. Plus ta structure augmente, bien, plus tu vas avoir de coûts qui vont être attachés à ça. Fait que dès le départ, tu dois avoir une structure financière qui est très claire, où on va définir les bonnes normalisations, même si tu ne les payes pas immédiatement. Mm-hmm. Éventuellement, grossissant, tu vas les payer, inévitablement. Inévitablement, on va avoir un marché où le taux de vacances va augmenter. Écoute, on regarde là, en 2017, là, les investisseurs donnaient des loyers gratuits. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. Viens chez nous, je te donne 2 mois de loyer. Là, là on ne vit pas ça avec la crise du logement, mais ça va revenir éventuellement. Tu sais, c'est des cycles de marché. Fait en conséquence, il faut prévoir. Fait que l'erreur numéro un, c'est vraiment ça. Planification, puis se mettre de l'argent de côté, puis bien le compter dans cette structure-là. Vraiment.
Puis tant mieux, c'est le revenu net d'opération réel. La gestion annuelle, ouais. Qui est supérieure au revenu net normalisé, qu'on utilise, mettons, pour calculer les valeurs économiques
ouais.
Aussi. En termes de cash flow, tant mieux aussi. Mais comme tu dis, justement, d'avoir une vision un petit peu plus à long moyen et long terme sur la croissance du parc mm-hmm. aussi, puis en faisant des réserves pour certaines dépenses comme ça, mais ça fait que quand tu arrives à l'année 3, 4, 5 aussi ou avec les prochains immeubles, mais justement, tu as une structure qui est solide, une fondation financière qui est solide sur tout le portefeuille.
Absolument. Ah oui, absolument. Puis au final, c'est tellement simple qu'on l'oublie, tu sais. J'avais un client dernièrement qu'on parlait ensemble, puis il me disait « Ah, réserve entretien, moi je m'en occupe au fur et à mesure, c'est pas grave. » Là, j'ai dit « Ben écoute, tu sais, t'as un gros bâtiment, ta toiture, là, elle va coûter 20 000 dans 20 ans mm-hmm. à faire. Là. Ton 1 000 de côté, faut que tu y penses, là. Puis là, t'as une cuisine, une salle de bain dans chaque... Puis là, t'as des planchers à faire partout, pense-y, puis là, t'as des fenêtres qu'il faut que tu répartisses. C'est tout l'entretien de bâtiment qu'il faut répartir, puis ça va être des mm-hmm. gros coûts qu'éventuellement, t'auras pas le choix de... Tu t'en sauves pas, là. Fait que c'est vraiment important. Puis c'est oui, le refinancement, il va tout le temps être là. Tu vas pouvoir refinancer pour aller payer ces choses-là, nécessairement. Mais ça reste de l'équité qui t'appartient. Fait que prévois-le donc tout de suite dans ton cash flow. Puis tu vas juste plus être content quand tu vas te rendre à cette étape-là.
Puis c'est une... comment je dirais ça? C'est un cercle vicieux aussi. Tu sais, si tu entretiens tes immeubles, tu es capable justement de maximiser tes vols locatifs mm-hmm. ou valeurs marchandes. En ouais. faisant ça, la valeur économique augmente. Capable de refinancer plus aussi. Fait que c'est ça la beauté de l'immobilier. C'est l'effet de levier que ça génère. Aussi, plus tu réinvestis dans ton immeuble.
Ouais.
Aussi, fait que tu maintiens toujours la valeur c'est au plein potentiel. Là.
Absolument. Vraiment, absolument. Numéro 2.
Numéro 2, diligence raisonnable.
Oui.
Aussi.
Vérification diligente. Je dis pas qu'elle est jamais faite. Je dis que souvent elle est botchée. Fait qu'on a plusieurs acheteurs qui vont faire leur vérification diligente, mais qui vont s'arrêter. Bon, j'inspecte, ça arrête là. Je pense que la vérification diligente, elle peut être plus poussée, puis elle sert aussi à prendre un moment de s'assurer de bien comprendre le potentiel de son immeuble, pas juste de faire le minimum. La vérification diligente, c'est ça. C'est au niveau financier, au niveau législatif, au niveau physique de mon bâtiment, mm-hmm. où j'en suis actuellement, puis jusqu'à ma porte de sortie de cet immeuble-là, c'est quoi mon potentiel. Fait que quand on parle de vérification diligente, ben oui, visite des lieux, inspection de bâtiment, fine, fais ce que tu as à faire, négocie par la suite, il faut que tu négocies. Mais après ça, va donc vérifier à la ville ton zonage. Va donc vérifier avec un architecte si tu peux optimiser le bâtiment puis te rajouter des logements ou te rajouter un étage ou whatever. Mm-hmm. Alors, regarde donc avec ton arpenteur géomètre si tu n'as pas de la superficie pour ton terrain pour ça subdiviser ou aller justement rebâtir quelque chose à côté. Tu as tellement de potentiel avec ton immeuble qui est possible de faire que souvent, vérification diligente, ça te permet genre de prendre le temps de bien analyser ton immeuble puis aller te faire la bonne projection avec. Puis, encore une fois, au niveau municipal, même si tu vois dans ton évaluation que tu as le bon nombre de logements pour le zonage, puis là, tu regardes ta grille de zonage, OK, parfait, je lève la condition, tout ça, mais finalement, tu te rends compte que, bon, le propriétaire, il avait aménagé 2 logements sans permis, que c'était pas autorisé, puis là, tu arrives au notaire, le notaire veut pas notarier, la transaction tombe, ça m'est arrivé en septembre. C'était un 9 logements, puis là-dedans, il y en avait 3 qui avaient été aménagés, pas de permis, puis la transaction a jamais pu être notariée à cause de ça, là. Fait que là, l'acheteur a perdu du temps, il a perdu des frais pour se rendre jusque-là. Mm-hmm. Le vendeur n'a jamais voulu rembourser les frais parce qu'il a dit à l'acheteur que c'était à lui de faire ses propres vérifications. D'un autre côté, le vendeur lui avait fait des mauvaises déclarations parce qu'il disait qu'il avait tout demandé les permis. Fait que c'est des choses qui arrivent aussi. Fait que vérification diligente, ça ne se limite pas à l'état physique des lieux, ça va beaucoup plus loin que ça. Là. Tant dans l'optimisation que d'éviter des problèmes. Là. Fait que c'est d'utiliser tous nos partenaires, les arpenteurs, nos contacts à la municipalité, ton banquier, tout le monde, ton conseiller municipal, va regarder tout le monde, puis genre, assure-toi d'utiliser le plein potentiel de ton immeuble, puis assure-toi de pouvoir repérer les bobos avant qu'ils arrivent.
Ouais, puis il y a des hauts sommes qui sont en jeu là, aussi, là, tu sais, je veux dire, t'as un créancier qui est derrière ça, t'as probablement une injection de mise de fonds là-dessus, aussi, tant mieux si tu vois du potentiel aussi, mais après ça, tu sais, il faut prendre le temps, tu sais, s'assurer que le potentiel, tu sais, il est réel, puis on va pouvoir justement, tu sais, l'exploiter aussi. Puis pendant la mise en marché, tu sais, pour ramener ça, toi, c'est quelque chose, je sais que tu fais, aussi avec l'équipe d'analyse en arrière, tu sais, c'est pas pour rien que tu demandes, mettons, au vendeur d'envoyer toute la documentation avant qu'un premier achat soit accepté. Aussi parce qu'il y a un premier screening qui est fait.
Ouais.
Aussi, puis ça permet justement que le vendeur, quand il va être engagé dans une promesse d'achat plus tard, mais qu'au moins d'être assis sur des fondations solides aussi, puis qu'il se fasse pas challenger par un acheteur à certains points.
Ouais.
C'est parce que justement, c'est la vérification diligente, les documents n'avaient pas été. C'est tout rassemblé puis vérifié correctement. Fait que ça fait des transactions plus solides aussi.
Vraiment.
Autant du côté de l'acheteur pour le rassurer dans son acquisition, ça c'est le fun d'avoir. C'est la liste de toute la documentation en place, mais autant pour le vendeur aussi. Fait qu'il n'a pas l'impression de perdre une vente potentielle ou d'avoir perdu 3, 4, 5, 6 mois de négociation en plus des mises en marché. Là.
Exact. Exact. Puis j'aime le point aussi que tu apportes concernant l'institution financière. Puis la manière que je le vois, c'est qu'en réalité, les institutions financières sont. C'est notre partenaire majeur dans le sens que, tu sais, moi dans ma tête, quand j'achète un immeuble avec mon. Parce que j'achète des immeubles aussi. Quand j'achète un immeuble, bien, je me dis tout le temps que, bon, si j'achète avec Desjardins, mais Desjardins, si moi je vais à 20%, puis il y a 80% qui est mis par Desjardins, partenaire, c'est mon associé Desjardins au final, tu comprends? Il détient, tu sais, en actif, eux autres détient 80% de l'immeuble, j'en détiens 20%, autrement dit. Là. Fait que c'est une manière de voir les choses, puis. Si moi je fais de l'argent, mais Desjardins fait de l'argent. Puis après ça, ben, quand les deals fonctionnent, la banque est bien contente. Puis là, c'est là que tu crées une relation d'affaires puis que les choses vont plus loin. Fait que c'est important d'avoir un peu de recul puis de faire une bonne analyse dans ce sens-là aussi. Hein.
Point numéro 3, diversification du portefeuille.
Ouais, diversification du portefeuille. C'est un point qui est un petit peu plus subtil. Mais je vais voir. Puis là, je parle vraiment sur le long shot, OK? Je vais voir des investisseurs qui vont dire bon, ben moi, je fais. Que de la construction neuve, puis j'ai que des logements, tu sais, à 1800 par mois. C'est correct, là. C'est correct d'être niché et d'avoir son créneau, c'est une bonne chose. Je pense juste que dans l'immobilier, un peu comme on peut voir à la bourse, c'est bien de penser à se diversifier, d'avoir des sources de revenus qui vont perdurer dans le temps, qui vont pouvoir stabiliser à certains endroits. Fait que, tu sais, par exemple, je reviens à mon investisseur qui fait que de la construction neuve, puis que des immeubles à 1800 par mois, c'est super bon, tu sais, t'as trouvé un beau créneau, mais. Quand sur le boulevard Talbot, à Chicoutimi, il y a 1000 logements neufs qui vont se pousser. Là. La rareté de ton logement à 1800, là, il ne sera plus là. Là. Fait que, tu sais, même si on est dans une crise du logement, ça se peut que tu aies un taux de vacances qui soit assez élevé. Parce que justement, tu vas avoir trop de compétition dans ton type de créneau. Fait que, tu sais, d'aller se diversifier, c'est un petit peu ça. Là. D'aller chercher, tu sais, en immobilier, il y a tellement de possibilités de faire de l'investissement. Puis souvent, les gens, ils l'oublient, ils pensent juste, mettons, au multilogement. Mais quand tu veux un immeuble puis tu laisses une BPV, tu l'as pendant 5 ans, c'en est un type d'investissement de laisser en tant que vendeur une BPV. Là. J'ai du revenu qui va venir de ça. Là. Fait que je viens de stabiliser mes revenus en laissant une BPV, je viens d'aller chercher une autre source de revenu qui est indépendante en gardant une garantie. Je peux aller faire de la location court terme, je peux aller faire de la subdivision de terrain, je peux aller faire du flip de multilogement, je peux aller faire toutes sortes de choses qui vont aller stabiliser mon revenu. Puis au lieu de dire, bon, ben moi, je fais qu'une sorte, je fais que de la maison de chambre. Puis que là, bon, ben, les étudiants tombent en grève ou genre les profs tombent en grève, puis là, finalement, les cours sont annulés, puis là, tes étudiants repartent dans leur pays, puis là, tes maisons de chambre sont vides. T'sais, on extrapole, mais je pense que c'est un marché qui est très solide, mais qui peut parfois être très sensible aussi là, à tout ce qui est sociodémographique. Fait que d'aller chercher plusieurs styles d'investissement tout en restant dans l'immobilier vont permettre de stabiliser les revenus, puis c'est souvent quelque chose qui est très peu fait là, dans notre domaine. Là. Les gens vont rapidement trouver un créneau puis vont rester dans leur créneau, quand en réalité, ils ont des opportunités vraiment partout. Prêt privé, BPV, name it, là, il y en a partout. Fait que, je pense que ça, c'est un point majeur là, qui ne doit pas être oublié.
Oui, puis de penser un petit peu plus large que juste un immeuble aussi. c'est tant mieux, tu sais, quand tu commences à investir aussi, souvent tu vas acheter un premier meuble, un deuxième, un troisième aussi, puis tu vas rester dans ce que tu connais aussi, puis avec raison, parce que justement, si tu veux maximiser ou exploiter le potentiel, c'est ta stratégie, c'est faire de l'optimisation, c'est faire de l'optimisation. Si on est un constructeur, souvent, bien, ça va être justement, tu sais, d'élever des projets, ça ne sera pas nécessairement dans le développement, malgré qu'il y a des constructeurs qui font du développement aussi,
ouais.
Mais des fois, c'est une question de temps. Puis je pense aussi avec les taux, tu sais, tu as soulevé le point de faire du prix privé ou d'avoir une balance de prix de vente. C'est avec les conditions actuelles du marché aussi, puis la rareté, ils ne sont pas capables de trouver des opportunités, tu sais, d'ingester les ouais. fonds. Aussi, mais tu es un petit peu plus créatif par rapport à ça. Aussi, puis de plus en plus, tu sais, il y a un gros besoin pour aller chercher des partenaires aussi, pour des questions financières, mais aussi pour des questions d'expertise. Des fois, c'est juste pour diversifier son risque.
Oui,
aussi.
Tout à fait.
Puis de plus en plus, j'ai l'impression, dans les prochaines années, on va en avoir de plus en plus parce que justement, les investisseurs deviennent plus sophistiqués, sont plus éduqués aussi, puis bien, l'accès à l'information est de plus en plus ouvert également. Fait que ça fait que il y a moins d'arbitrage dans les marchés, dans les classes d'actifs ou les transactions.
Oui, ben d'accord.
OK. Puis, tendance de marché et sociale, comment ça peut avoir un impact sur le marché du Saguenay?
Ça, c'est un des plus gros importants. Un des points les plus importants pour moi, surtout au Saguenay, parce que il y a très peu de sources d'informations fiables sur les statistiques du Saguenay. Maintenant, il y a nous, mais avant ça, je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit où on pouvait trouver des statistiques fiables. Puis, les gens devenaient un petit peu perdus au travers de tout ça. Où est-ce que je veux en venir, c'est que c'est bon là, d'être un investisseur puis d'acheter des immeubles de temps en temps, mais si... puis là tu fais ta formation, mettons tu vas faire ta formation MREX ou avec M. La Rochelle ou tu sais, tous des bons formateurs, puis là t'apprends ton MRM, t'apprends ton TGA, t'apprends comment calculer la rentabilité de ton immeuble, mais quand t'arrives dans ton secteur, là tu connais tout ça, puis là t'as étudié avec eux qui vont te parler principalement des chiffres de Montréal, Sherbrooke, dans d'autres secteurs, t'arrives au Saguenay, puis là tu te dis bon, mais moi c'est quoi mon MRV moyen? J'ai aucune idée là. C'est le bonhomme, il veut me vendre son immeuble. Je dis le bonhomme, là, il veut me vendre son immeuble à 8 de MRB ou à 15 de MRB. C'est quoi qui est bon? Si je connais pas ma tendance de marché, puis je connais pas ma moyenne de marché, comment je me situe au travers de ça? Puis il n'y en a pas de moyenne de marché qui est présenté au Saguenay. Fait que soit les investisseurs, ils vont se fier à ce qu'ils entendent un peu par-ci par-là. Ah, à 10 de MRB, c'est bon. Ils parleront à peine de TGA, puis le MRN, quand t'as pas des sources fiables comme nous on a, MRN, TGA, quand t'as pas des sources fiables comme nous on a, c'est quasiment impossible à calculer. Mais si c'est impossible à calculer, tu vas voir que l'immeuble s'est vendu, tu vas être capable de regarder ton MRB, mais tu n'es pas capable de savoir, en connaissant pas les dépenses, tu n'es pas capable de savoir où se situe au niveau du MRN, TGA, tu es gelé. Fait que je pense qu'en tant qu'investisseur, de continuer à s'informer le plus possible, surtout par une banque d'informations comme nous, on offre pour notre clientèle, de continuer à s'informer au niveau des statistiques moyennes pour bien te situer dans ton marché. Tu vas être capable de dire quand... Tabarouette, ça, c'est un méchant bon deal, ou ça, c'est trop cher, ou ça, je trouve que le prix est mal listé, ou selon ce que toi, tu veux faire, tu es capable de mieux te repérer au travers du marché. Parce que c'est bon de regarder ce qui se passe au Québec-Montréal et d'aller chercher les statistiques qu'il y a là-bas, mais si tu regardes pas ce que tu as dans ton secteur, ça sert à rien de comparer au final. Fait que justement, j'ai les statistiques avec moi, fait que je vais faire un petit survol pour le 5 à 11 logements et pour le 12 logements et plus dans la dernière année. Fait qu'au Saguenay, dans la dernière année, au niveau des volumes de transactions, dans le 5 logements à 11 logements, on a eu 21 millions en transactions qui s'est vendues. Donc, c'est 5% de plus que ce qu'on a eu l'an dernier, pour un total de 42 transactions. Le coût par logement est en moyenne à 67 000 $. Souvent, ça, il y en a beaucoup, 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 je le sais, qui vont être surpris, qui vont penser que c'est du 100 000, du 110, du 130 000 la porte. Mais littéralement, au Saguenay, 67 000 $ la porte. Puis ça, pour mes investisseurs à l'externe qui ne catchent pas, là, moi, dans ma tête, ça sonne opportunité là, à mort. Là, quand tu vois que, je ne veux pas parler parce que c'est pas mon secteur, là, mais quand tu vois du 150 000 la porte à, ailleurs, hors région, là, tu te dis, calique, là, on est la moitié du coût par logement que ce qu'il y a ailleurs. Fait que moi, je vois là-dedans une
très... Mais on l'a vu en Estrie, Trois-Rivières, puis dans la région de l'Outaouais. Aussi, c'est sûr qu'il y a des dynamiques économiques. C'est complètement différente par rapport au Saguenay.
Ouais.
Mais tu sais, c'est du 55 à 80 % d'une augmentation depuis 2019. Tu sais, Patrice a fait une présentation à la Corpée, tu sais. Puis honnêtement, c'est ça. Si on regarde l'évolution du coût par logement, il y a eu un énorme rattrapage qui a été fait. Puis Saguenay, tu sais, était un petit peu à la traîne. aussi, mais de plus en plus, il faut des coûts par logement qui augmentent. Ouais. Aussi, le besoin en logement va augmenter aussi. Fait que c'est sûr que les valeurs immobilières vont augmenter.
Absolument. On est les prochains sur la liste. C'est comme tu as dit, là, ce qu'on a vu là, justement à Trois-Rivières, à Sherbrooke, des villes qui sont assez étudiantes, tout comme nous. On a deux cégeps, une université, puis on a beaucoup mm-hmm. jeunes de la Côte-Nord, puis en région qui viennent étudier. Fait que ça va continuer d'augmenter. 67 000 la porte, là, ça ne tiendra pas. Là. C'est une question de temps là, avant qu'on pogne le 100 000 la porte. Là. Fait que tous les investisseurs qui ont été assez rapides pour voir cette progression-là s'en venir, puis qui achètent avant que ça arrive.
Puis c'est probablement vu puis remarqué dans l'augmentation des loyers. C'est le loyer marchand, l'augmentation ouais. année après année. Aussi, le marché de la région de Saguenay est capable de supporter cette augmentation-là.
Oui. Quand j'ai commencé l'immobilier, de 2017-2018 en tant qu'investisseur, les 5,5, on allait louer ça 700-750 par mois non chauffé non éclairé. Ça n'existe pas, là. Mm-hmm. Tous nos logements, 5,5, c'est moindrement propre. Là, t'es à 1 200 $, là, 1 100, 1 200. C'est énorme comme augmentation, c'est presque le double. On parle en 5 ans, là, à peine. Fait que, tu sais, pour moi, ça sonne opportunité, là. Ça hurle opportunité. Fait que, en tout cas, je pense qu'il y en a plusieurs, là, qui ont pris la balle au vent, puis ça va continuer, là. Balle au bon, puis ça va continuer. TGA, 4,6. Ce qui est excellent pour notre secteur aussi. C'est assez surprenant. Je m'attendais à quelque chose de plus haut que ça. Mais encore une fois, ce qu'on peut retirer de ça, c'est qu'il y a une très belle valeur de revente pour nos immeubles, mm-hmm. même pour un secteur où on ne s'y attendrait pas. Fait que 4,6 de TGA, c'est excellent. Puis pour ce qui est du transactionnel, qui est très peu parlé, personne ne parle de l'industriel dans notre secteur. Au niveau de l'industriel, le prix par pied carré moyen dans l'industriel léger est à 183 $ le pied carré. Et à 56 $ le pied carré dans l'industriel lourd, ce qui est très intéressant. Pour ce qui est du multilogement de 12 à 24 logements, on a eu seulement 8 transactions qui se sont enregistrées cette année, donc 100% moins que l'année d'avant. Donc ça veut dire là, qu'il y a vraiment une grosse rétention dans le gros multilogement. Premièrement, on n'en a pas beaucoup, mais en plus de ça, les gens les conservent le plus longtemps possible. Mm-hmm. On va avoir des projections beaucoup plus long terme qu'un petit immeuble. Fait qu'il y a une bonne rétention là-dessus. On est à 63 000 la porte et 4,8 de TGA. Fait que aussi que ça en dit long. Là. Surtout sachant là, que les gros multilogements vont principalement se situer dans les secteurs étudiants. Pour ce qui est de Chicoutimi-Jonquière, il y en a beaucoup, beaucoup. Fait que quand on parle de potentiel d'augmentation, là, on voit des 5,5 loués à 2 200 parce que les investisseurs vont louer ça la chambre. Fait que ton coût par logement, il explose dans ce temps-là. Fait que là, tu sais, à 63 000 la porte, je sais que autour du cégep de Chicoutimi, l'Université de Chicoutimi, là, ça vaudrait beaucoup plus cher que ça.
All right. Ça, c'est pour les statistiques.
Ouais.
Puis sinon, dernier point aussi, l'erreur, je pense, c'était d'utiliser un financement inapproprié.
Ouais.
Aussi, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Aussi, là, en ce moment, c'est très tendance.
Avec
la montée puis la baisse soudaine des taux. Aussi, qu'on ne peut pas prédire en pensant. C'est parce que, félicitations aux acheteurs qui sont en train de débourser puis closer aujourd'hui. Parce que ces acheteurs qui ont commencé à faire des promesses d'achat de 5 ou 6 mois, aujourd'hui sont récompensés
ouais.
avec des taux de 3,40. 9%, des CMB 3,40%.
Des
CMB, c'est important, il y a une petite nuance.
Absolument.
Aussi. Mais c'est quoi les principales erreurs quand on parle de financement inapproprié pour les transactions ou pour son parc au complet?
Je te dirais que c'est vraiment une question de planification d'entrée puis de sortie. Souvent, les gens vont simplement acheter, geler leur mise de fonds là puis pas penser plus loin.
Mm-hmm.
Puis c'est vraiment important d'avoir sa porte de sortie puis savoir qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. En tant qu'investisseur, moi, si, mettons, je mets 100 000 à la bourse, là, je vais le savoir qu'est-ce que je vais faire avec. Là. Rarement, il y a des peu de chances que je parque ça là, puis je ferme les yeux là-dessus, puis j'attends mm-hmm. advienne que pourra. Fait que c'est un peu la même chose pour le multilogement. Quand tu mets ton 100 000 en mise de fonds, il faut que tu le saves quand est-ce que tu le ressors. Il faut que tu saves qu'est-ce que tu vas faire comme stratégie. Puis au niveau du financement, les courtiers hypothécaires avec qui on travaille chez BNL font tellement des belles analyses. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait pour mon dernier refinancement à 5 logements. Fait que de tout de suite aller planifier. Bon, mettons que je décide d'acheter conventionnel. Fait que là, je m'achète, je fais un prêt conventionnel, je décaisse un peu plus pour mon prêt conventionnel. Bien, tout de suite, j'allais préparer mon refinancement, mettons, à PHLEC dans un mm-hmm. temps de temps. Puis je vais être capable de savoir où ma liquidité va aller, quand est-ce que je vais la ressortir, puis qu'est-ce que je vais faire comme rendement sur cette mise de fonds-là. Je te dirais que même que c'est rare d'avoir un investisseur qui est capable de dire sur son immeuble c'est quoi son rendement de mise de fonds. Puis ça, c'est quand même grave dans le sens que. Encore une fois, si je mets 100 000 à la bourse, je le sais que je m'attends à 10 % de rendement mm-hmm. sur le type de placement que je vais faire. Si je te pose la question en tant qu'investisseur, ton 100 000, c'est quoi son rendement? Puis tu es prêt de me le dire, ça veut dire que tu as une mauvaise gestion, une mauvaise analyse de ton investissement. faut que ça soit capable de me le dire, bon, ben, mon taux de rendement interne sur cet immeuble-là, ben, c'est 18%, c'est ça que j'ai prévu, puis c'est là que je vais ressortir mon argent, puis après ça, je vais tomber à temps de terri. Fait que la planification financière, puis la stratégie financière est extrêmement importante. Fait que c'est de planifier ben, son entrée, à combien je la fais, quand est-ce que je vais faire mon décaissement, soit en vente, soit en refinancement, puis entre les deux, je m'attends à quoi comme rendement sur mise à fond. Cette planification-là est souvent mal faite ou oubliée, ou juste, bon, ben, je mets l'argent là, puis il y a de l'argent qui va se faire, je sais pas trop combien, je sais pas dans combien de temps, je sais pas ce qui s'en ligne, mais. Fait que là-dessus, il y a beaucoup de travail à faire. Ouais.
Puis il y a des profils d'investisseurs aussi. Ouais. Il y en a justement, tu sais, il y a beaucoup de professionnels, par exemple, qui vont acheter du neuf, hein, parce que c'est moins de gestion, aussi, puis aussi, mais parce qu'ils sont capables de juste. En bon québécois, parquer de l'argent,
ouais,
c'est dans le neuf. Versus quelqu'un, mettons, qui veut croître un parc ou bâtir un patrimoine et être un petit peu plus agressif. Mais là, c'est important justement d'être capable de voir, OK, mais comment je vais récupérer? C'est quoi le rendement que je vais faire sur ma mise de fonds? Est-ce que je vais récupérer 50, 75, 100 % de ma mise de fonds, puis la capacité d'injection pour croître ce parc-là?
En plein ça.
La suite.
Tout à fait. Puis peu importe le type de profit que tu as, c'est correct, tu vas avoir une porte de sortie qui va être différente, plus longue, plus courte, mais c'est important quand même de savoir qu'est-ce que tu t'attends comme rendement, puis c'est quoi l'impact que le marché actuel a sur ton rendement, en fonction des augmentations, en fonction de l'inflation. T'sais, là, on vient d'avoir une annonce d'augmentation, si je ne me trompe pas, de 5,4% de nos taxes municipales au Saguenay. C'est une grosse annonce pour les investisseurs immobiliers. C'est important, là. 5,4%, ça fesse, là. Puis il y a du monde que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été réévalués, là. Ils vont faire le saut, là. Fait que quand ton immeuble est réévalué à sa pleine valeur, puis qu'en plus de ça, tu as une augmentation de 5,4%. Là. Si tu n'avais pas fait ta bonne estimation des coûts de gestion, là, ça se peut que tu fasses le saut. On retourne au point 1 avec ça, là, mais bref, je pense que vraiment, le mot de la fin, c'est de mieux planifier, prendre son temps, aller chercher les bonnes ressources, puis justement, mieux s'impliquer dans sa transaction au lieu de juste être passif, ben, de vraiment être actif, impliquer, savoir où l'argent va, puis utiliser les ressources autour de soi le plus possible, vraiment.
Parfait. Puis entamer une discussion avec un professionnel comme toi, aussi, tu sais, qui est le feuille propriétaire, puis ça n'avait pas nécessairement l'intention de vendre, aussi juste discuter, OK, mais regarde, si je pense de vendre dans un horizon de 1, 2 ou 3 ans, aussi, c'est ce que mon immeuble est mieux positionné. Pourquoi? Pour être capable de tout faire, c'est le travail qui doit être fait, puis d'aller chercher la pleine valeur, c'est la journée qui c'est une mise en marché va avoir lieu.
Puis il y a beaucoup de clients qui ne savent pas qu'on fait du service conseil, puis c'est vraiment ça. Important, là. Le service conseil, là, où on va aller facturer à l'heure, là, est super intéressant pour des investisseurs qui manquent un petit peu d'expérience ou que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait d'optimisation d'immeuble puis ils veulent se remettre à jour. Mais tu sais, nous, on se prend, là, 2 heures ensemble, on va aller analyser ton immeuble, on va aller regarder où c'est que tu as de l'argent qui est à terre puis qu'on peut aller rechercher l'optimisation sur ton immeuble. Puis à partir de là, ben, tout le monde en sort gagnant. Fait que le client, voit notre professionnalisme, nos compétences. On optimise son immeuble, on fait augmenter sa valeur, puis à la fin de son terme, bien, il sait s'il est prêt à vendre ou il refinance. Mais dans tous les cas, il va avoir été gagnant. J'ai des clients qui, en 2 heures, bon, ben là, recherché un 40 000 d'optimisation, là. On est payant de l'heure en tabarouette dans ce temps-là. Fait que je pense que ça, c'est un service qui est un peu oublié, puis c'est important que les gens le savent, là, qu'on en fait.
Parfait. Donc, j'invite tout le monde à communiquer avec Frédéric Ducasse, courtier immobilier spécialisé dans le commercial, dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Grand Saguenay. Aussi, tu couvres toute la région.
Absolument.
Aussi. Fait que merci, Frédéric.
Merci beaucoup, Yab.
Ça fait plaisir.
À bientôt.